externalités, en les maintenant comme externalités dans les sphères C et D, ou, lorsque cela n'est plus possible, de s'emparer de ces sphères directement et d'essayer de les marchandiser. Mais je laisse ça de côté pour venir à un autre point, c'est-à-dire que, si vous voulez, mon avis de penser la financiarisation comme une sphère intégrante du processus et pas comme une sphère qui surajoute, ni comme une sphère déterminante, parce qu'au fond, elle est simplement la suite de cet élément fondamental. Au contraire de ce que raconte, par exemple, Chenet, une bonne partie de Lordon, etc. Alors, là, l'autre point que je voudrais développer maintenant, c'est que cette analyse par les externalités me permet de fonder, j'y reviens pas, disons que les institutions sont des convertisseurs d'externalités. C'est-à-dire que il y a, et là je lis Coase, à mon avis comme Coase se lit lui-même, contrairement à Stigler et contrairement au néoclassique, notamment dans son discours de réception du prix Nobel, mais aussi la suite de ce qu'il a les articles à prendre ses distances avec le fameux théorème de Coase, je lis Coase en pensant que les institutions jouent un rôle crucial, directement économique, donc pas comme Polanyi, un rôle qui limite, qui borne l'économie. Elles jouent un rôle fondamentalement économique, mais ces institutions seraient inutiles s'il n'y avait pas d'externalité. Mais justement, il y a toujours des externalités. Donc en réalité, la thèse, on ne peut pas défendre avoir une théorie institutionnaliste, néo-institutionnaliste de l'économie, si on n'a pas, on ne la fonde pas du point de vue économique sur les externalités. Sinon, ça ne tient pas debout. Ou alors, on tombe dans le fonctionnalisme de Posner en disant que les institutions, de toute façon, arrivent au résultat que réalise le marché beaucoup mieux qu'elles et à moindre coût. Ce qui est le fondement, comme vous le savez, du libéralisme hayekien. Je veux dire, il n'y a pas de curseur, il n'y a pas d'arrêt. C'est-à-dire, je vous pose le problème très simple. Où vous voulez penser les institutions, alors où vous partez hors de l'économie, vous n'intéressez plus les économistes, et vous allez polaniser comme vous voulez, vous allez faire du polani, continuez à intéresser les économistes, vous bénémiques des institutions, et en même temps, ne pas avoir une théorie purement fonctionnaliste, vous êtes obligé de vous servir de l'analyse par les externalités. Troisième point de l'intérêt de déconstruire et de faire voler en éclats systématiquement les concepts fondamentaux de l'économie politique, non seulement néoclassique, mais classique. Les concepts fondamentaux de l'économie politique classique, à savoir le modèle, grosso modo, input-output, avec une boîte noire technologique et un facteur de production, ça c'est pour les néoclassiques, mais pour les classiques, le concept même d'échange et de production conçu à partir de, de quoi? Fondamentalement, il y a deux. Si on laisse de côté l'échange et la vertu normative de l'échange ou de l'accumulation, c'est-à-dire, c'est le chapitre 1 d'Adam Smith, c'est-à-dire l'addition, le modèle de la division du travail, l'addition des gens par spécialisation et taille, produit quelque chose qui est supérieur à la somme du produit d'un travailleur indépendant et individuel. Alors ça, c'est la pensée, j'allais dire, de l'économie politique que Adam Smith développe quand il a renoncé à sa théorie de l'empathie et la théorie des sentiments moraux. Quand il a abandonné cette théorie de l'échange et pas de la coopération préalablement à l'échange. Et puis, le deuxième élément qui est un pendant indispensable de ça, c'est évidemment Keynes. C'est-à-dire qu'on a beau prendre cette manufacture productrice d'épingles, etc., la manufacture productrice d'épingles va automatiquement vous conduire, dès le chapitre 1, mais ça a mis un siècle parce que les gens sont lents à comprendre Ricardo et Smith, ça vous met automatiquement dans quoi? Ça vous conduit à au fait que vous allez imputer la valeur créée, le surplus de valeur créée, la fameuse productivité de cette fabrique d'épingles par rapport de ses ouvrières, par rapport à la période où elle fabriquait chacune, ou chacun, les artisans, c'est plutôt des hommes, fabriquaient les aiguilles une par une. bon, en les martelant. Et donc, vous allez les reconduire à quoi? Vous allez les reconduire à du travail, que vous allez définir simple ou complexe, on s'en fiche, du capital, machine par Adam Smith, par le gamin, l'invention du gamin, c'est-à-dire le refus du travail du gamin et du loisir, conduit à l'invention des soupapes, du moteur au bout de la gaule, il a mis des... sans avoir à se déranger, parce qu'il a envie de dormir, et donc il fait juste ça, et il invente le principe de la soupape. Alors on ne sait pas si, mais c'est un magnifique exemple que dans le système du capitalisme industriel, c'est le refus du travail ou le goût du loisir qui a un effet productif, donc un contre-effet. C'est un effet non attendu. Les imbéciles diront un effet pervers. Mais nous savons même que c'est un mot qu'on n'a pas le droit d'employer. Je vous renvoie à 2 siècles de rhétorique réactionnaire. Alors, l'important, c'est que si c'est le travail, le capital, le progrès technique, il n'y a plus de miracle. C'est-à-dire, il n'y a pas de surproduit. Parce que ces choses-là, où elles ont une valeur, on l'a mal calculée, on arrive à la calculer. Une fois qu'on l'a calculée, on a un produit, il suffit d'affecter à chacun, hein, et il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de surplus net. Or, ce que Keynes, et ça c'est quand même l'acte fondateur de l'économie politique, et ce que même Marx reconnaît à Keynes, et pourquoi il trouve que Keynes est infiniment supérieur à Adam Smith, c'est justement que chez Keynes, malgré toutes ses limites, il y a un surplus net. Il y a une création nette. D'où sort-elle, cette création? D'où sort-elle, si elle ne sort pas de l'imputation à un des facteurs, ou à un des éléments de la production, d'une cette richesse, cette quantité de richesse nouvelle produite en valeur. Alors, la thèse, donc, je vais aller très vite maintenant. L'élément qui surgit, qu'on peut utiliser, c'est évidemment qu'on peut se servir précisément de l'analyse par les externalités. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, je passe sur le petit détour par la production, l'innovation, parce que j'essaie de vous dire aussi que sous le capitalisme cognitif, dans la mesure où la production de valeur se concentre sur le cœur de la production d'invention ou de la production de connaissances, eh bien il est clair que là encore, pourquoi? Eh bien parce que un seul élément de preuve, la discussion qu'il y a aujourd'hui autour de l'immatériel et l'évaluation de l'immatériel dans les firmes. Si vous prenez, je n'ai pas le temps de le lire le passage, mais c'est dans le papier, le supplément des échos, un prof d'HEC, qui est très bien, d'ailleurs qui lit de la littérature à l'humain, l'immatériel, eh bien, il donne les 3 éléments qui composent, selon l'école scandinave de gestion, le capital humain, sa compétence, l'expérience des employés de la société, le capital structurel qui comprend à la fois la culture d'entreprise, la capacité d'innovation, les modes de mise en œuvre de celle-ci à travers l'ensemble de l'organisation de la firme, le capital client qui valorise le fonds de commerce de l'entreprise, préserve de marché à travers la fidélisation de la clientèle. Bon. Qu'est-ce que dit ce prof de gestion? On fait le ratio, c'est-à-dire quand on fait le ratio entre le capital immatériel et le capital matériel, on obtient 1,80 pour les industries classiques, c'est-à-dire 80% déjà le capital immatériel représente 80% de la valeur, et pour les secteurs de haute technologie, le rapport est de 500%. 500%. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il montre aussi, enfin il indique, que ça n'est pas, on ne peut pas, ce qui est évalué là, c'est pas l'intangible. Bon, on va revenir au cours du séminaire sur cette question, je crois, au deuxième semestre. Mais disons que il ne suffit pas de formation, il ne suffit pas d'évaluer le goodwill, donc il y a quelque chose dans l'entreprise, dans le fameux Economic Value Added, qui ne se retrouve pas au bilan. Et ce quelque chose, comme il faut l'évaluer, eh bien c'est là qu'intervient la spéculation. C'est-à-dire que ce quelque chose, comme il n'y a pas d'élément matériel pour le tamiser, la seule façon c'est la méthode spéculative de... Bon. Alors ça c'est un volet, et puis je terminerai simplement par Le dernier point, parce que ça me tenait à cœur, bon, je l'ai mis là, j'ai pas le temps de le faire, parce que ça me serait supposé à ce que vous voulez. Après cet éclairage micro, un éclairage macro à propos de les externalités. L'idée est la suivante. Supposez que dans la sphère marchande de l'économie, y compris, j'allais dire, la sphère des entreprises qui est mesurée par la comptabilité, tous les facteurs soient payés à leur propre, soit payés, soit à tarification marginale, je m'en fous, soit que vous trouvez, et que l'entreprise, vous vous demandez comment elle peut arriver à dégager quelque chose, un profit. Si les entreprises soient définies comme prédatrices d'externalité, vous allez pouvoir avoir, avant même qu'intervienne le secteur marchand, toute une série de mouvements entre les trois agents économiques, que j'ai appelé population, état, entreprise, pour me caler sur la comptabilité nationale. Bon. Vous allez pouvoir avoir des transferts d'externalités positives et négatives entre les trois secteurs qui venaient. Alors, j'ai pris exprès un cas d'école, j'ai pris exactement celui de Kennel, la reproduction simple. C'est-à-dire qu'au début de ma période, je suppose que la population a 100 000 milliards d'euros d'externalité positive. Elle représente 1 000 milliards d'euros d'externalité positive. Évalue le coût de la vie par tête de personne selon les économies à X millions de francs, etc., ou X millions d'euros. L'État en a 700 milliards et les entreprises 300. Supposons que ce soit comme ça, mais je m'en fiche les chemins. Je construis un système dans lequel il se passe des transferts entre les trois secteurs. Avec des règles très simples, les externalités négatives, ben c'est des destructions, contrairement à la comptabilité nationale qui les compte positivement, mais les transferts d'externalités positives secteurs d'un agent à un autre se traduit celui qui a son capital d'externalité positive et celui qui la reçoit l'inscrit. Là, dans le bilan que je me suis amusé à faire, à la fin de la période, on retrouve exactement la même notation. Donc je suis dans une économie là sans croissance. J'ai supposé qu'il s'opère via les transferts essentiellement de la population, c'est-à-dire de l'inventivité de la population, de sa coopération, il s'opère un bilan dans lequel il y a, au fond, 300 globalement, dans les externalités, on a 300 milliards qui apparaissent négativement au bilan de mon système. Eh bien, ce que je pense, c'est que si l'entreprise a réussi à opter pour 300 milliards d'externalités positives, quand bien même elle ne gagnerait pas un rond à l'intérieur du système marchand, quand la lutte des classes aurait fait que le travail peu qualifié est payé tout à fait ce qu'il vaut, soit en termes marginaux, soit en termes autres, eh bien, c'est cette consommation, cette déperdition d'externalités positives dans le bilan pré-marchand va apparaître comme un profit positif pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'en réalité, dans l'évaluation de l'entreprise, j'ai fini, dans l'évaluation de l'entreprise, et peut-être c'est une clé pour l'évaluation du goodwill et tout ça, l'entreprise sera mesurée par sa capacité qu'elle a de se mettre en position de captation du solde global des externalités positives et négatives entre tous les secteurs de l'économie pré-marchand. Voilà. Donc, c'était...